Chapitre 4. Ali entra dans la pièce. « Es-tu prête, maman ?»«
Plus ou moins. Il y a des années que je n'ai pas joué au bridge. »«
L'important, c'est de participer. » Elles allèrent rejoindre Max et Éponine à l'arrêt du tram.
« Je me demande si nous serons nombreux !»
déclara Max après l'avoir salué. Le conseil avait voté une extension du boycott pour 3 jours supplémentaires. Bien que Grosse-Brique eût pris connaissance des doléances des humains et persuadé les octopodes de leur laisser la libre disposition des zones communes pendant plus de temps encore, les participants à la réunion jugeaient ces concessions insuffisantes. Ils voulaient faire appliquer des sanctions contre ceux qui ne respectaient pas leurs décisions, mais il s'était finalement contenté de s'engager à dissuader activement les réfractaires. Les passagers étaient peu nombreux à bord du tram. Une demi-douzaine d'octopodes dans la première voiture, 3 de leurs congénères et 2 iguanes dans la seconde. Nicole et ses amis étaient les seuls humains.
Il y a 3 semaines, avant le dernier incident, nous avions 23 tables réservées pour notre tournoi de bridge hebdomadaire,
dit Ali.
Nous comptions de 5 à 6 participants de plus chaque semaine.
Comment t'es venue cette idée?
Demanda Nicole, alors que 2 octopodes montaient à un arrêt.
Quand tu m'as parlé de ces parties de cartes avec les extraterrestres, j'ai cru que tu étais devenue folle.
Je me suis dit dès notre arrivée qu'il fallait créer des activités à même de favoriser les contacts multiraciaux,
répondit Ali en riant.
Je voyais mal des gens aborder un octo dans la rue, même avec moi ou un robot pour interprète. Et il s'est rapidement avéré qu'il n'existait aucun jeu où des humains pouvaient leur tenir tête, même en leur donnant des handicaps.
J'ai affronté le docteur bleu aux échecs,
intervint Max.
J'ai été lessivé en moins de 2, malgré un avantage d'une tour et de 2 pions. Ma confiance en moi en a pris un sacré coup.
Je devais trouver un jeu où nos 2 peuples ne seraient pas opposés,
dit Ali.
Au bridge, on regroupe 2 humains et 2 octos. Il n'est pas nécessaire de se parler. J'ai préparé des cartes dans les 2 langages, et même les plus bornés d'entre nous peuvent aisément mémoriser les chiffres de 1 à 7 des octopodes, ainsi que leurs symboles correspondant aux couleurs. Ça a très bien marché.
Nicole secoua la tête.
Je pense toujours que tu es folle, même si ta folie possède une touche de génie.
Il y avait seulement 4 humains dans la salle au moment où débuta le tournoi. Ali décida d'organiser 2 compétitions, une pour les équipes mixtes et une autre uniquement pour les octopodes. Le docteur bleu jouait avec elle. Nicole n'avait jamais brillé au bridge. Elle estimait que de telles distractions lui faisaient perdre trop d'heures qu'elle aurait pu consacrer à des activités plus utiles. Elle constata aussitôt que le docteur bleu et les autres extraterrestres qui participaient au tournoi mixte étaient d'excellents joueurs. Au 2e tour, le docteur bleu assura un contrat de 3 sans atout, particulièrement difficile, avec un art digne d'un professionnel.
Bravo !
La félicita Nicole.
C'est d'une extrême simplicité,
affirma l'octopode. Regarder les extraterrestres jouer était fascinant. Après avoir pris les cartes sur un plateau, ils les tenaient en éventail devant leurs lentilles à l'aide de 3 tentacules. Pour en poser une, ils utilisaient l'appendice le plus proche. Tout en jouant, Nicole bavardait avec son ami. Le docteur bleu venait de l'informer que le nouveau maître optimiseur avait été déconcerté par la dernière initiative du conseil quand la porte de la salle s'ouvrit sur 3 humains que suivaient Grosse-Brique et 1 des petits robots. Elle reconnut Emily Bronson, la présidente du conseil, qui parcourut les lieux du regard, puis se dirigea vers leur table. Leteux et Margaret, une charmante dame entre 2 âges, était entre-temps venu rejoindre Nicole et le docteur bleu.
Margaret Young,
s'exclama Emily Bronson.
Je n'en crois pas mes yeux. N'avez-vous pas entendu parler de l'extension du boycott décidée par le Conseil ?
Les deux hommes qui l'accompagnaient, dont le Garland de la piscine, l'avaient suivi jusque-là.
« Excusez-moi, Emily, » répondit Margaret en baissant la tête. « Mais vous savez à quel point j'adore le bridge. L'enjeu de cette partie est plus important que vous ne le pensez. »
Ali se leva pour demander à Grosbrick d'intervenir, mais Emily Bronson la prit de vitesse.
« En venant ici, vous trahissez vos semblables. Si vous regagnez immédiatement notre section, le conseil ne vous en tiendra pas rigueur. Mais si vous restez, après ma mise en garde... »
Grosbrick déclara que les nouveaux venus gênaient le déroulement de la partie. Le trio se tourna pour ressortir, et la moitié des humains présents se levèrent.
« C'est inadmissible !»
s'emporta Nicole.
« Rasseyez-vous ! Allez-vous laisser des semeurs de discorde vous dicter votre conduite ?»
Tous les joueurs reprirent leur place.
« Fermez-la, vieille folle !»
lança Emily Bronson avec colère.
« Ceci ne vous concerne pas !»
Grosbrick et ses compagnons l'encadrèrent pour lui faire quitter les lieux.
« Vous ne savez pas ce que c'est, Madame Wakefield ?»«
Tes suppositions valent les miennes, Maria, »
répondit Nicole.
J'ai cru sur l'instant que le cylindre argenté inséré sous la peau de ta mère était l'équivalent d'une plaque d'identification. Mais comme aucun gardien de ce zoo n'a survécu au bombardement et que la plupart des archives ont été détruites, nous ne pourrons jamais vérifier cette hypothèse.
Qu'est-ce qu'une hypothèse ?
Une explication plausible que nous avançons quand nous manquons d'éléments pour avoir une certitude. À ce propos, je dois dire que tu maîtrises très bien notre langue.
Merci du compliment, Madame Wakefield.
Elles étaient assises dans le salon proche de la baie d'observation et buvaient un jus de fruits. Bien que Nicole eût emménagé dans le grand hôtel depuis une semaine, c'était la première fois qu'elle se retrouvait seule avec l'enfant qu'elle avait découvert dans les ruines du zoo des octopodes 16 ans plus tôt.
« Ma mère était-elle jolie ?»
demanda Maria.
« Très. Je n'ai pas oublié ses traits, malgré la pénombre. Elle avait le même teint que toi et était de taille moyenne. Elle devait avoir environ 35 ans.
Vous n'avez vu aucune trace de mon père ?
Non. Peut-être était-il parti chercher de l'aide ? Le souffle d'une bombe avait abattu le grillage. Mais j'ai eu l'impression que vous étiez seul.
Vous pensez donc qu'il était déjà mort ?
Pas nécessairement. Ma seule certitude, c'est que vous deviez vivre dans cet enclos depuis longtemps.
Maria but une gorgée de jus de fruits.
« L'autre soir, vous m'avez déclaré que ma mère, et peut-être également mon père, avait dû être enlevée à Avalon. Je n'ai pas compris tout ce que vous m'avez dit sur cet endroit, Madame Wakefield. »
Elle lui sourit.
« Ton savoir-vivre est admirable, Maria, mais tu peux m'appeler Nicole. »
Elle pensa au Nouvel Éden, puis se souvint que la jeune fille attendait une réponse.
Avalon était un camp établi à l'extérieur du Nouvel Éden dans l'obscurité et la froidure de la plaine centrale. Le gouvernement l'avait créé pour y parquer des malades incurables. Mais le dictateur a convaincu le Sénat qu'il fallait également y envoyer les autres anormaux, ce qui incluait les opposants au régime autant que les attardés mentaux.
Je présume que ce n'était pas un endroit agréable.
Non.
Et Benji y a vécu plus d'un an. Il n'en parle jamais.
Elle dut se concentrer pour revenir au présent.
L'esprit des vieillards vagabondes, pour la simple raison que tout ce qu'ils voient et entendent leur rappelle des souvenirs.
J'ai fait des recherches, mais les responsables du camp sont morts pendant la guerre.
J'ai décrit ta mère à diverses personnes qui avaient vécu à Avalon. Aucune ne se souvient d'elle.
Croyez-vous qu'elle était une malade mentale ?
C'est une possibilité. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ton collier est le seul indice dont nous disposons. Elle devait appartenir à une branche de l'Église catholique fondée par Saint Michel de Sienne. Ali m'a dit qu'il y avait ici d'autres membres de cette congrégation. Je compte les interroger quand j'en aurai le temps. »
Elle s'interrompit et se tourna vers la baie. Les quelques humains et les nombreux octopodes tendaient bras et tentacules pour désigner l'espace. Deux hommes s'éloignèrent en courant, sans doute pour aller chercher des amis. Nicole et Maria se levèrent et gravirent les marches les séparant de la grande paroi transparente. Dans le lointain, au-delà du tétraèdre lumineux, approchait un énorme vaisseau aplati, ressemblant à un porte-avions. Elles l'observèrent pendant plusieurs minutes, sans dire un mot.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda finalement Maria.
« Je n'en ai pas la moindre idée, »
lui avoua Nicole. Il régnait ici une vive animation. Des créatures en tout genre essayaient de se rapprocher de la baie. Deux iguanes se servirent de la pesanteur pour sauter vers les premiers rangs et furent aussitôt imités par une dizaine d'humains. Nicole commençait à souffrir de claustrophobie et elle essaya de sortir de la cohue. Elle fut séparée de Maria et poussée contre une cloison. Elle perçut une vive douleur dans la hanche. Elle aurait pu être piétinée et blessée dans la bousculade si les robots n'étaient pas intervenus pour rétablir l'ordre. Mais quand Grosse Brique l'atteignit enfin, la souffrance était insupportable et elle ne pouvait plus marcher.
« Il faut être plus prudente à votre âge !»
lui reprocha l'aigle. Ils étaient seuls dans l'appartement.
« Ma fragilité m'horripile. Je ne peux supporter de restreindre mes activités parce que je risque de me blesser. » Votre ange finira par guérir, mais ce sera long et vous auriez pu rester invalide. Merci pour vos paroles de réconfort.
Elle but une gorgée de café. Elle était allongée sur son matelas, la tête soutenue par plusieurs oreillers.
Mais assez parlé de moi. Passons aux choses sérieuses. Que vient faire ici ce vaisseau ? Vos semblables l'appellent le porte-avions. Nous employons, quant à nous, le terme de transporteur.
Un bref silence.
Allons, ne me faites pas languir. Je souffre en dépit de tous les calmants que vous m'avez administrés, alors ne m'obligez pas à vous soutirer les informations une à une. Cette phase de notre mission s'achève. Une partie des résidents du Grand Hôtel seront transférés à bord de cet appareil et les autres s'installeront au point nodal. Et que se passera-t-il ensuite? Qui décide de ces affectations et en fonction de quels critères? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais sachez que vous irez au point nodal et que si vous répétez ceci à qui que ce soit, je ne vous ferai plus aucune confidence. Nous voulons que tout se déroule dans le calme. Vous ne m'avez pas appris grand-chose. Vous en savez plus que quiconque. La belle affaire,
grommela-t-elle avant de boire une gorgée de café.
Au fait, n'avez-vous pas des médecins capables de réparer ma hanche d'un coup de baguette magique? Non, mais ils pourraient la remplacer.
Nicole secoua la tête et tressaillit en se penchant pour poser la tasse sur le sol.
Le poids des ans est vraiment pénible à porter. Désolé, je repasserai vous voir dès que possible.
J'ai une dernière chose à vous demander. Naï souhaite que j'intercède en faveur de Galilée. Elle aimerait que vous l'autorisiez à rejoindre sa famille.
Ce n'est plus d'actualité, déclara l'aigle en sortant. Il n'y aura plus personne à bord dans 4 ou 5 jours. Au revoir, Nicole. Ne marchez pas. Utilisez le fauteuil roulant que je vous ai apporté. Vous ne guérirez jamais si vous laissez votre poids porter sur votre hanche.